Bonjour, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens.
Aujourd'hui, du château du roi à la prison de Rabat, France-Maroc, nous sommes amis.
En direct du studio 611, Comme un bruit qui court est réalisé par Jérôme Chélius, assisté de Karen Dehay, avec à la technique aujourd'hui Clément Vuillet et Jean-Noël Vélan.
Comme un bruit qui court vous emmène cette semaine là où le bon sens dépasse le mur du son. Le droit et la démocratie ont prévalu sur la violence. Voilà ce que notre ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a déclaré après l'évacuation de la ZAD du Testet à Stivins par la force publique hier. Soit, mais droit et démocratie prévalant sur la violence, les principes de M. Cazeneuve semblent républicains. On a envie d'acquiescer. Sauf que les principes, on le sait bien, les grands principes sont parfois solubles dans la réelle politique. Et que le même M. Cazeneuve s'apprête à remettre la Légion d'honneur à un individu cité dans plusieurs plaintes déposées au TGI de Paris pour complicité d'actes de torture et actes de torture. Plutôt du côté de la violence que du droit et de la démocratie, quoi. Mais ce n'est pas autour d'un barrage que ça se passe. La médaille et la plainte concernent le chef du contre-espionnage marocain et l'enjeu n'est pas une zone humide, mais les relations entre la France et le royaume du Maroc. Alors, pour être bien sûr que le droit et la démocratie ont prévalu sur la violence, cette semaine, Comme un bruit qui court, vous emmène chez notre voisin, le roi.
Actuellement, il vient beaucoup plus qu'avant. Il y a un bruit qui court, il aurait des problèmes intestinaux. Il se ferait soigner en France.
Au Maroc, c'est une méthode généralisée, la torture. La torture fait partie des modes d'interrogatoire systématiques, que ce soit les Sahraouis ou les Marocains.
Ah, les gendarmes. Bonjour.
On va au bistrot là, parce que madame travaille pour France Inter.
Ouais, j'ai vu.
On a fait le tour du château, ça, de voir. Donc là, j'emmène au bistrot, je la laisse là.
D'accord. Vous patientez deux petites secondes, s'il vous plaît.
Oui.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Les liens se resserrent entre la France et le Maroc, soyez rassurés. Après 11 mois de brouille diplomatique, les relations reprennent avec le balai des visites officielles entre Paris et Rabat. La semaine prochaine, ça sera d'ailleurs Laurent Fabius qui y sera. Tout le monde vous le dira, il faut savoir terminer une brouille pour lutter ensemble contre le terrorisme. La cause de cette brouille ? Le même chef du contre-espionnage marocain, Abdellatif Amouchi, s'était vu notifier l'année dernière une demande d'audition suite à plusieurs plaintes pour torture. Inacceptable, avait jugé le royaume. Et voilà comment on est arrivé à la médaille d'aujourd'hui, comme un hochet pour faire la paix. Et voilà pourquoi, cette semaine, Anaël Verzo et Antoine Chao sont allés porter leur micro. Là, il ne faut pas. Antoine, par exemple, a ressorti le dossier d'un conflit qui s'éternise, celui du Sahara occidental, un véritable caillou dans la babouche de Mohamed VI. Les cailloux, c'est d'ailleurs à peu près tout ce qui pousse au Sahara occidental, plus quelques arbustes et du phosphate en dessous. Et Anaël, elle, s'est intéressée donc à notre voisin le roi. Notre ami le roi, c'était l'enquête de Gilles Perrault, il y a 25 ans, qui avait brisé le silence sur le Maroc de Hassan II. Or, son fils Mohamed VI, qui lui a succédé, est le voisin d'un tout petit village de l'Oise, où il a un château. Du coup, c'est toute la vie du paisible bourg républicain qui frissonne au gré des allées et venues de son souverain. Mais il y a parfois des voix qui viennent troubler cette royale résidence en écho de ce qui se passe entre Paris et Rabat.
Antoine Chao.
Anaël Verzo.
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
J'arrive devant l'ambassade du Maroc en France, à Paris, rue Tassé, près de la place du Trocadéro. Et on est le 21 février, le 4e anniversaire du mouvement, en tout cas du 20 février, au Maroc. Et là aujourd'hui, il y a un petit rassemblement qui est prévu devant l'ambassade.
Bonjour.
Bonjour.
Anaël, Sophia. Il y a une trentaine de personnes devant l'ambassade du Maroc en France. Là, il y a des banderoles. Alors, des banderoles. Il y a du mouvement du 20 février. Liberté, dignité, justice sociale. Mohamed Suisse, où est la richesse ? Mohamed Suisse et pas 6. Excusez-moi, c'est qui sur la photo ?
Je pense c'est Hamouchi.
Abdouti F Hamouchi.
Hamouchi, pensionnaire. Hamouchi, pensionnaire.
Cette petite manifestation, c'était le 20 février dernier pour célébrer les 4 ans du mouvement du 20 février, un mouvement engagé contre les injustices au Maroc, né en 2011, en même temps que les révolutions arabes. Mais ce mouvement n'avait pas vraiment eu la même ampleur qu'en Tunisie, par exemple, ou en Égypte. D'une part parce que Mohamed VI reste vénéré au Maroc, on ne touche pas au roi, et également parce que Mohamed VI avait eu l'intelligence de modifier la constitution marocaine pour calmer les manifestants. Alors cette manif devant l'ambassade à Paris, vous l'avez compris, c'est aussi pour protester contre le patron des renseignements du Maroc, Abdellatif Hamouchi, et contre le gouvernement français qui s'apprête à lui remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Alors nous, pour connaître les raisons officielles de cette étrange décoration, on a contacté le ministère de l'Intérieur français, qui malheureusement ne nous a pas accordé d'autorisation pour enregistrer l'entretien. Néanmoins, un porte-parole du ministère a tenu à nous faire part de son étonnement, non pas face à ce projet de Légion d'honneur, mais face à mes interrogations. Il nous demandait, mais enfin madame, c'est pas logique quand on souhaite rétablir des relations diplomatiques de promouvoir des personnalités importantes? Et moi je réponds, mais quid des accusations de torture? Et lui, mais madame, vous pouvez me dire comment aurait réagi la France si un juge marocain avait convoqué notre directeur de la DGSI? Et finalement, notre interlocuteur nous a conseillé de récupérer les sonores, l'intervention de M. Cazeneuve à Rabat, ce qu'en bon petit soldat, nous avons fait. Allez, retour dans la manif.
Les militants qui se battent au quotidien pour la liberté, l'égalité, la dignité et la justice sociale sont tabassés, emprisonnés et torturés. Les organisations des droits humains sont réprimées, les journalistes muselés et en même temps, les pensionnaires, les lapidateurs de nos richesses sont honorés. L'un d'entre eux, Abdellatif Hamouchi, vient d'être promu à la Légion d'honneur par le ministre intérieur français.
Pensionnaire.
Comment vous vous appelez?
Youssef. Khatib Youssef.
Ah. Vous êtes membre de la MDH ou vous êtes membre du mouvement du 20 février?
Ah, moi, je suis membre des deux, en fait. Et je suis membre de militant de la Voix démocratique, une organisation de la nouvelle gauche marocaine. La France, elle se comporte d'une façon étrange et bizarre par rapport à ce qu'on appelle les rapports avec le Maroc. Dans l'exemple, la Légion d'honneur pour un tortionnaire. Ça, c'est la grande surprise, comme dit l'autre. Et moi, où je suis encore surpris, c'est aujourd'hui la France, soi-disant, c'est un gouvernement de gauche. Elle a intérêt à se poser des questions sur elle, parce que ça, c'est pas une politique de gauche envers les dictateurs, surtout au Maroc. Et on a vécu la même chose hier, avant-hier, avec la France et le dictateur Ben Ali en Tunisie. C'était la même chose, presque. On soutient un dictateur, on fait tous les moyens pour museler l'opposition. Et en même temps, on a vu l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait. Ben Ali a chuté, etc., etc. Et j'espère que ce sera la même histoire que chez nous au Maroc. Voilà.
Du peuple marocain.
C'est un tortionnaire. Il torture les citoyens. Il torture les Marocains.
Il n'est pas bien, il n'est pas bien.
Voilà. Et la France souhaite le décorer avec la Légion d'honneur.
Ah oui,
il souhaite décorer un tortionnaire. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant.
La famille royale marocaine citée dans la liste des détenteurs de comptes répertoriés chez HSBC Private Bank.
Un compte de 8 millions d'euros à Genève.
Ambiance Saint-Valentin entre le Maroc et la France. Les ministres de l'Intérieur des deux pays ont exprimé le bonheur de se retrouver.
La France,
Bernard Cazeneuve,
avait déjà eu l'occasion de distinguer M. Hamouchi en 2011.
Rabat, le 14 février 2015.
En lui attribuant le titre de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, elle saura prochainement lui témoigner à nouveau son estime, en lui remettant cette fois les insignes d'officier de la Légion d'honneur.
En bref, le Maroc évoque l'absence d'autorisation. Deux journalistes français ont été arrêtés en plein tournage à Rabat avant d'être expulsés vers la France. Les deux journalistes réalisaient un documentaire pour France 3 sur l'économie au Maroc.
Alors on est avec Catherine Grassier. Catherine, vous êtes journaliste et auteure d'un livre qui s'appelle « Le roi prédateur, main basse sur le Maroc ». La France s'intéresse particulièrement au Maroc en ce moment, notamment parce qu'il y avait eu les histoires du compte HSBC de Mohamed VI, le roi du Maroc. Également, deux journalistes français de l'agence Première Ligne
qui ont été expulsés récemment du Maroc. Et il y a eu l'annonce par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve d'une remise de la Légion d'honneur qui devrait avoir lieu normalement à M. Abdelatif Amouchi, chef des renseignements marocains.
Est-ce que la DST, du contre-espionnage marocain, tout à fait.
Est-ce que ça vous étonne d'abord l'expulsion des deux journalistes français ?
Là, je dirais qu'on est un peu dans une séquence où tout est choquant. D'abord, en matière de liberté de la presse, les deux journalistes français qui réalisent un film sur l'économie marocaine pour le compte de France 3. Donc on est quand même dans un exercice tout à fait autorisé, et il n'y a pas grand-chose de secret. Font leurs demandes d'autorisation, ne les obtiennent jamais, parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, aujourd'hui, c'est très difficile d'obtenir les autorisations, quelles qu'elles soient, de tournage. Et faute de réponse, sont partis tourner. Et là, au bout de 3 jours, sont expulsés avec une vraie violence policière, d'après ce qu'ils m'ont raconté eux, puisque d'abord, ils ont été un peu bousculés par les forces de l'ordre, qui ont ensuite donné l'assaut à l'endroit où ils s'étaient réfugiés, qui est une association, l'association marocaine des droits de l'homme.
La MDH,
qui est un symbole au Maroc et même au Maghreb. Pour la première fois en l'histoire de cette association, les forces de l'ordre ont donné l'assaut à coups de marteau et de burin pour enfoncer la porte. Ils ont aussi assommé une pauvre dame qui passait là et qui avait les clés du local pour rentrer. Donc ça, c'est des choses qui sont nouvelles au Maroc. Donc ça, on n'a jamais vu ça sous Mohamed VI. Donc ça, déjà, c'est choquant. Ce qui est aussi choquant, mais c'est dans le même registre en fait, c'est la promesse, parce qu'on n'en est encore qu'à l'étape de la promesse, d'une décoration du chef du contre-espionnage marocain. Et ce monsieur a un souci, puisque en fait une plainte a été déposée contre lui en France, plainte qui est actuellement instruite par un homme qui s'appelle Zakaria Mouni, qui est champion du monde de boxe de son état, et qui accuse d'avoir été torturé par ce monsieur. Il le fait publiquement et M. Moumni ne rate pas une occasion de s'exprimer sur les médias français. Donc là, il est absolument impossible que le ministère de l'Intérieur, M. Cazeneuve, ne soit pas absolument au courant de ce qui se passe. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même aussi reconnaître que depuis Hassan II, il y a quand même des grandes avancées qui ont été faites. Évidemment, son fils Mohamed VI n'est pas du tout le même genre de souverain. Mais pour autant, non, la torture n'a pas disparu. Il suffit de regarder les communiqués de presse d'Amnesty International, de Human Rights Watch. C'est une catastrophe, ça continue.
4 jours de torture.
Zakaria Moumni.
J'étais nu, les yeux toujours bondés. J'étais attaché sur une table, électrocuté sur les parties intimes, partout. Et sans cesse, on me répète, ici c'est l'abattoir de Sa Majesté. Ici on va te découper, on va faire de toi de la viande hachée, tu sortiras dans des boîtes de concert. Ça t'apprendra d'aller manifester devant chez le roi ou de citer Mounir Majidi. Ça, il me répétait ça sans cesse. Et ça a duré 4 jours.
Dans les commissariats, on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont torturés à l'électricité, privation de sommeil, privation de nourriture, on les bat, ça on sait. Parfois, il y a des viols qui sont commis, ça on sait, avec des bouteilles, ça on le sait aussi. Et il y a eu aussi ce scandale du centre de Témara, dans la banlieue, un centre donc, de la DST marocaine, que dirige le fameux monsieur Amouchi. Centre de Témara qui a été identifié de manière très très claire par les ONG américaines comme étant un vrai centre de torture où vraiment on torturait à la chaîne, quoi, hein. Notamment des détenus islamistes, et il y a plein de témoignages qui vont dans ce sens. Enfin, moi-même, quand j'étais au Maroc, j'en ai recueilli plusieurs, sans ambiguïté sur ce qui s'y passait. Et ce centre, c'est un tabou total au Maroc. Je veux dire, tout le monde sait qu'il existe, mais on en parle très peu. Alors la presse indépendante en a parlé à l'époque, beaucoup, mais cette presse, elle a été muselée depuis. Il n'y a plus de presse indépendante. Il y a une impunité totale pour les tortionnaires. Moi, je crois que c'est ça. Il y a une impunité totale pour les tortionnaires. Et donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir de progrès tant que les responsables ne sont pas inquiétés.
Le Royaume a mandaté ses deux avocats pour nous répondre.
On va donc écouter Maître Repiquet et Maître Boussier en duplex donc depuis Rabat.
Canal+, le supplément. 1er mars 2015.
Plusieurs personnes disent avoir été torturées au Maroc, au siège de la DST. Que répondez-vous ?
C'est absolument faux. Et c'est parce que c'est absolument faux que des plaintes en dénonciation calomnieuse ont été déposées en France. Il n'y a pas eu d'acte de torture. Monsieur Amouchi n'a jamais été complice, ni même instigateur de quelque acte de torture que ce soit. Ça s'inscrit dans une entreprise de déstabilisation d'un très grand acteur, on l'a compris maintenant. Un très grand acteur, on l'a compris maintenant.
Mais non, on ne torture pas dans les prisons marocaines. Ce sont des accusations malhonnêtes, proférées par ces mauvaises personnes qui ne cherchent qu'à déstabiliser Sa Majesté et compromettre la lutte commune du Maroc et de la France contre le terrorisme. Heureusement, heureusement, il existe en France un endroit où Mohamed VI est particulièrement bien vu. C'est un petit village de l'Oise, 1200 habitants, où le roi a un grand château, une forêt, des fontaines, des chevaux, au total 70 petits hectares. Et fort heureusement pour lui, ce n'est pas le seul château de Sa Majesté. On estime à 12 le nombre de palais royaux au Maroc, plus une trentaine de résidences où travaillent plus de 1200 personnes, prise en charge par le Trésor public à hauteur $1 million par jour. En 2009, le magazine américain Forbes estimait la fortune de Mohamed VI à $2.5 milliards. Pourtant, à son arrivée à la tête du royaume en 1999, Mohamed VI s'était surnommé le roi des pauvres. Après le régime autoritaire d'Hassan II, oui, on pensait que Mohamed VI aiderait les Marocains, dont le revenu annuel par habitant est de $4.950, c'est-à-dire moitié moins que celui des Algériens et des Tunisiens. Mais malheureusement, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, en tout cas pas au Maroc. En France, par contre, le roi Mohamed VI est très généreux avec les habitants de Bé, le petit village de l'Oise, habité par le château du roi et quelques vassaux. Il est connu, le roi, ici, hein ?
Oui, oui, oui. Énormément. Il fait beaucoup de choses pour la ville de Bé. Il est coté, hein. Il est très coté à Bé, mais l'année dernière, je sais qu'il a payé pour une douzaine d'enfants de Bé les vacances au Maroc, avec interprète et tout. Les enfants sont rentrés enchantés.
Vous savez s'il vient souvent à Bé ?
Ça n'est pas régulier, mais actuellement, il vient beaucoup plus qu'avant. Il y a un bruit qui court, il aurait des problèmes intestinaux. Il se ferait soigner en France. Par contre, ce qui est marrant, c'est que quand il est là, tout autour du château, il y a des barbouzes. On appelle ça, oui. Il est super bien gardé.
Vous dites les barbouzes.
Oui, oui. Ça me fait penser au film qu'on voit avec des espions et tout. C'est les lunettes noires, costume foncé. Oh, vous allez en voir, hein. Pas de problème. Et le matin de bonne heure, souvent, on les voit en survêtement en train de courir, pour garder la forme. Parce que toute la forêt qui est là, la plupart, c'est à lui, hein.
Ah bon ?
Ah oui, oui.
Toute la forêt,
tout,
là.
Tout est dans une forêt, c'est grand.
Ah, tout ça, ça appartient au roi ?
Oui, oui, par derrière. Mais ça va, je sais pas combien il y a d'hectares, mais... Alors, dedans, il y a la mosquée, il y a tout, hein. Il y a l'embryon... J'ai pas vu ça. L'embryon anti-atomique.
Un abri anti-atomique.
Ah, oui, ça, c'était du temps de son père.
Hassan II.
Voilà.
C'est lui qui avait acheté le château. Hassan
oui.
II.
Oui.
Avant, ah, voilà.
C'était une maison de retraite. Ah, et c'était des Hollandais qui l'avaient. Voilà, ils ont refait un tas de cabanes là, à chaque entrée. Ça doit être pour mettre des gardes. Il ne doit pas être là. Ah si, la police est là. Ah. Nous, on sait qu'il est là quand on voit son drapeau.
Ah, parce qu'il met le drapeau marocain.
Ah, il y a le drapeau. Quand le roi est là, il y a le drapeau. Mais il est le drapeau. Il a le...
Ah, il y a la mairie qui est juste en face du château.
L'église. Voilà, encore ici, c'est château, 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 château. Tout ça, c'est le château, là, c'est sa mosquée.
Ah, c'est là, à droite, c'est la mosquée ?
Oui, la mosquée pour le roi.
Bon, ben voilà,
par
je crois
contre,
que...
j'ai pas vu de barbouze. Il est peut-être parti sur Paris.
Et là, il y a la gendarmerie.
Oui, il y a encore des gendarmes.
Gendarmes là, partout.
Vous descendez, vous vous retrouvez à côté de la mairie. Il y a le château.
Ah, ça y est, enfin.
J'ai vu. Je savais qu'on le verrait, mais...
Ah là là.
Pas de photo ? Non ? Non, les gendarmes ne vous laissent pas faire.
Ah oui ? C'est vrai ?
Ils commencent à nous regarder avec des drôles de yeux.
Ouais. Ah, les gendarmes. Bonjour.
On va au bistrot, là, parce que madame travaille pour France Inter.
Ouais, j'ai vu.
On a fait le tour du château, ça, de voir. Donc là, j'emmène au bistrot, j'en laisse là.
D'accord. Vous patientez deux petites secondes, s'il vous plaît ?
Oui. Vous voulez que je me garde, là ? Ça français.
Ouais. Bonjour.
Possible d'avoir une pièce d'identité, s'il vous plaît?
La mienne?
Les deux personnes, s'il vous plaît.
Il n'a pas mis l'arme dans le coffre. Hein.
Comment?
Il n'y a pas d'arme dans le coffre.
Voilà ma carte de presse.
Et une pièce d'identité, s'il vous plaît.
On est surveillé là. Il y a un gendarme qui est juste derrière.
Ah, c'est ça, la cantine, le restaurant scolaire.
Ah, juste
ça,
à gauche.
C'est mauvais, c'est ce qu'il a payé ça. Ouais.
Tout le bâtiment.
Ah oui.
Merci. Merci, à bientôt. À vous aussi, au revoir. Et nous voilà à B, chez monsieur Mohamed VI, parce que quand même, le château prend pratiquement tout l'espace du village. Et là, on vient de m'indiquer, les gendarmes viennent de me demander de ne pas circuler, de ne pas marcher même dans la rue principale du village, puisque c'est dans cette rue qu'il y a le château. Et là, pas très loin de l'église, à quelques mètres du château, il y a un petit bar-brasserie. Et peut-être que dans le bar, il y a des personnes qui connaissent Mohamed VI.
Bonjour. Bonjour, comment allez-vous?
Ça va et vous?
Un seul n'a pas de poche.
Ça veut dire que même si t'es plus riche du truc, de toute façon, ça sert à rien, tu vas mourir comme
un
seul n'a pas de poche, c'est un proverbe auvergnat.
Vous habitez là?
Oui, j'habite là. Oui. J'habite là depuis 30 ans.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Fuir le monde. Ah non, pas du tout pour le travail. Le travail, vous savez bien comment ça se passe. Le travail, malheureusement, il est ethnocentrique, c'est-à-dire il est sur Paris. Il n'y a rien ici, vous savez bien. Les seules grandes entreprises qu'il y avait ici, c'était Poquelin. Appelez-y Belleville. Hein. Sinon, non, il y a...
Qu'est-ce que vous faites?
Je suis ingénieur conseil.
Moi, je fais un reportage ici sur le village, sur Mohamed VI.
Sur?
Sur le roi.
Oui.
Mohamed VI.
Oui, que je connais. Hein.
Est-ce que vous l'avez déjà rencontré ici au village?
Non, jamais. Non, mais évidemment, tous ceux qui tournent autour.
Vous pouvez parler de tout et n'importe quoi, du temps, des oiseaux, tout ça, mais le Maroc, s'il vous plaît.
On parle pas du Maroc dans le bar?
Non, c'est pas ici. Vous pouvez sortir dehors, parler là.
C'est un lieu public. Chez moi.
Pourquoi vous voulez pas qu'on parle du Maroc dans le bistrot?
Moi, c'est ici chez moi et voilà.
Oui, mais on est dans un endroit qui est ouvert, c'est ça que je comprends pas en fait.
Il y a 1200 habitants.
Oui.
Il y a d'autres villages autour. Pourquoi vous êtes venu à Béche?
Parce qu'il y a la résidence du roi du Maroc.
Ah voilà, alors donc il faut aller au vif du sujet, mademoiselle. Je ne suis pas un demeuré, j'ai 42 ans quand même.
Mais je prends pas vraiment un demeuré.
Maintenant, vous dites que je parle du beau temps, d'accord.
J'ai pas dit je parle du beau temps, je dis je parle du village.
Mais malheureusement, moi j'ai eu des surprises avec des journalistes comme vous. Moi, je suis désolé, voilà.
Mais pourquoi donc le patron du bistrot de B n'a-t-il pas voulu qu'on parle du Maroc dans son bar? Parce que en 2011, en plein pendant les révolutions arabes, le courrier Picard, qui avait été repris par l'un des seuls journaux indépendants marocains, avait accusé Mohamed VI d'avoir tenté d'aider le patron du bistrot pour obtenir une licence tabac. Alors évidemment, ce petit coup de pouce a tout de suite été démenti par le tenancier du bistrot qui n'avait pas vraiment apprécié à l'époque, et on le comprend, les articles de ses journaux.
Ah oui. Oui, mais finalement, il m'a offert un café, en fait.
Ouais. Vous auriez du mal à le convaincre, parce que de toute façon, il s'est fait un peu piéger, quoi.
Est-ce que vous avez déjà rencontré Mohamed VI, ici,
non,
à B?
Non, jamais.
Qu'est-ce qu'on dit de lui ici?
Les Français n'ont pas la même histoire avec le Maroc. Ils ont une histoire, j'allais presque dire, qui n'a pas d'histoire. Il n'y a pas de difficulté. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bien vu. Il est bien vu.
Il est bien vu parce qu'il aide les villageois?
Pas seulement. Pas seulement, parce que les relations entre la France et le Maroc ne sont pas les mêmes. C'est pas les relations entre la France et l'Algérie, par exemple. Ça n'a rien à voir. France-Algérie, il y a un contentieux. dont je ne suis pas moi responsable, puisque moi j'ai jamais été en Algérie, je suis auvergnat d'origine, vous voyez que je suis assez loin du sujet. Les relations franco-marocaines, elles ont une histoire, quoi, sans accroche, il n'y a pas de contentieux.
Oui, il y a même plutôt BHL par exemple.
Oui, pas seulement.
Il y a un RIAD, DSK, il a son RIAD aussi.
Oui, oui. Donc il y a...
Est-ce que vous travaillez des fois pour le château ?
Non, parce que c'est plutôt du travail d'artisanat qui est fait ici. Moi, je suis dans une grande entreprise, on ne fait pas ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui autour qui travaillent. Par exemple, la personne qui promène ses chevaux, c'est une copine. Hein ?
J'ai rendez-vous à 11h au cabinet médical.
Oui.
C'est plus haut ?
Oui, c'est plus haut. C'est à côté de la gendarmerie.
Merci beaucoup. Je peux pas prendre la rue
oui.
qui est là.
Je peux pas vous autoriser l'accès de la rue de la Libération. Vous pouvez passer directement par là. Vous prenez la rue au carrefour, enfin au bout, à droite, et vous arrivez au coin de l'église.
Faut que je fasse le tour pour arriver devant l'église.
Par là, c'est ça.
Ok. Voilà, on peut pas passer devant le château du roi. Je contourne le château. Ici, c'est quand même... Notre ami le roi, hein. Il ne dit que du bien du souverain Mohamed VI. Faut dire que s'il paye des vacances aux enfants de la ville, ça se comprend.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasulillahi wa ali wa sahbih. Monsieur le Président de la République, Altesse Royale, Madame, Excellences, Mesdames et Messieurs. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala vous accueille, les membres de l'important délégation qui vous accompagne et vous souhaite un moment. Au nom du peuple marocain, la bienvenue.
Encore une impasse. Impasse Paul Dumont.
La relation entre le Maroc et la France est sans conteste marquée du sceau de l'exception. Monsieur le Président, je souhaite en cette occasion réitérer ma détermination à approfondir et développer encore davantage notre relation pour qu'elle soit au service d'un dessein maroco-français beaucoup plus ambitieux. Je vous invite à vous lever en hommage à M. François Hollande, à l'amitié entre les peuples marocains et français et à l'inaltérable capital de confiance, d'estime mutuelle, confiance qui les a toujours unis. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Je me trouve toujours à Bête. Et nous voilà maintenant devant le centre médical, derrière le château du roi, du monarque. Et d'ailleurs, je vois le drapeau marocain qui flotte au vent. Et je vois aussi un gendarme juste devant le drapeau. Et là, j'ai rendez-vous avec Philippe Boulan, qui est médecin à Baie et qui est l'ancien maire du village.
Bonjour.
Je suis donc médecin dans ce village depuis une trentaine d'années. J'ai été assez rapidement adjoint, puis maire pendant un bon moment. Il y a un autre maire maintenant et je suis conseiller municipal de ce village.
UMP ?
UMP, tout à fait.
Il y a 1100 habitants dans le village.
Exactement.
Ici.
Ah, c'est un petit village, oui. Je viens très souvent ici, deux, trois fois par an, à peu près.
De façon continue, toute l'année, il y a un entretien, c'est chauffé.
Exactement. C'est entretenu toute l'année, effectivement.
Actuellement, il est là, hein, Mohamed VI.
Tout à fait, il est là depuis à peu près un mois, oui. Quand le roi vient, c'est souvent 300, 500 personnes qui l'accompagnent, ce qui pose aussi des problèmes de station d'épuration pour la commune, il faut la dimensionner en fonction, etc. Et plein d'autres choses. Vous imaginez que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais on le fait évidemment très volontiers parce que ça apporte dans le secteur et pour nos commerçants des avantages qui sont plus qu'intéressants. Et Mohamed VI m'avait demandé comment il pouvait aider le village et je lui ai dit, Votre Majesté, si vous voulez donner quelque chose, il me semblait qu'une structure à destination sociale qui touchait un peu l'ensemble de la population et surtout la population la plus nécessiteuse pouvait être en priorité attributaire d'un don de Sa Majesté. On a eu une ou deux urgences dans la commune qui ont nécessité qu'effectivement on puisse se rapprocher de Sa Majesté pour nous aider financièrement s'il l'acceptait. Il l'a toujours accepté. Au-delà de ça, le roi propose aussi qu'on envoie régulièrement, une fois par an, des jeunes. Ils partent un mois, j'allais dire aux frais de la princesse, non, c'est aux frais du roi. Tout leur est payé et c'est un voyage magnifique parce qu'il est dans un niveau que ces jeunes ne connaîtront jamais, évidemment. On leur fait même parfois rencontrer des personnalités. Ils ont rencontré Jamel Debbouze au Maroc. Ils voyagent dans des hôtels magnifiques. Ils sont encadrés partout. Tout leur est payé. Enfin, c'est même un peu brutal, je dirais, de passer de la réalité à cela. Pendant un mois, on a eu quelques décalages de réactions chez certains enfants que maintenant on essaie d'anticiper avant le départ dans ce type de voyage.
Mais pour s'adresser à lui, il faut dire « Sa Majesté ».
Votre Majesté. Quand on s'adresse à lui, on dit « Votre Majesté » ou quand on parle de lui, on dit « Sa Majesté ». C'est l'usage verbal. Mais c'est quelqu'un que j'ai découvert comme étant vraiment très très simple. Après, j'ai été en lien épistolaire très souvent avec lui et j'ai toujours eu des réponses vraiment rapides et personnalisées et sur les sujets que j'évoquais. Mais
il vous répond lui-même personnellement ?
Voilà, soit lui personnellement, soit par le biais de son secrétariat, mais c'est arrivé que j'ai eu parfois des réponses de Nicolas Sarkozy, quand il était président, qui m'écrivait directement en me disant « Le roi du Maroc m'a interpellé sur tel sujet, vous l'aviez interpellé sur tel sujet, etc. » Voilà. Donc c'est pas mon homologue, c'est quand même le roi du Maroc, mais il sait mettre les gens très à l'aise et très facilement, et il s'intéresse vraiment au secteur local. Je trouve ça, moi, un atout pour le secteur vraiment très intéressant.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, je crois que je vous en ai beaucoup dit. Mais après, on rentre dans la sphère privée de Sa Majesté. Évidemment, ça, je peux pas. Ça ne m'appartient pas. Et voilà. Non, je vous fais un petit témoignage de quelque chose d'original dans un petit village.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Presque comique là parce qu'il y a une camionnette de la gendarmerie qui n'arrête pas de faire des allers-retours pour voir où je vais alors qu'il n'y a absolument personne dans les rues. On peut dans la boulangerie. Oups. Bonjour.
Un reportage sur le village et sur le roi.
Je connais rien sur le roi, je peux pas dire un truc que je connais pas. Je suis vraiment désolée.
Je pensais que ça faisait tourner du coup l'économie de la boulangerie, le fait qu'il y ait un château avec des...
Non, aucun personne ne va vous dire sur le roi, je vous le dis de maintenant.
Personne ne parle du roi.
Personne ne parlera du roi.
Pourquoi ?
Parce que...
C'est le sujet tabou.
Il fait des avantages pour tout le monde, et tout le monde veut cet avantage. Personne ne parlera plus.
Moi je vous remercie en tout cas.
Au revoir.
On ne veut pas parler du roi. Il aide tout le monde ici, il est gentil, mais on ne veut pas en parler, on ne veut pas de problème.
Bonjour, c'est le journaliste qui passait ?
Oui.
Vous êtes pour ?
Radio France Inter.
Et vous êtes là à quelle occasion ?
Je fais une petite visite du village.
Bien sûr.
Je fais un reportage sur le village.
Donc tant que c'est sur le village, en dehors de cette rue-là, ça ne me dérange pas trop.
Ouais.
Mais évitez de passer un peu trop dans la rue, quoi.
De toute façon, après, je serai à pied.
En dehors de la rue, alors ?
En dehors de la rue ? Ok.
Voilà. Je vous remercie bien.
J'irai de l'autre côté.
Ok, allez, bon courage.
Merci,
au revoir.
Allez, on quitte le joli village de B, toujours suivi par nos amis gendarmes. Mais les plus surveillés dans l'histoire, ce sont les militants marocains qui, chaque année, tentent de manifester devant le château du roi.
Il est déjà interdit de circuler devant le palais royal, alors manifester, vous imaginez bien que c'est absolument impossible, en tout cas pour le moment. Mais à cet instant, chers auditeurs, je me dis que, comme moi, vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas déménager pour que vos enfants, eux aussi, puissent profiter des belles vacances au Maroc, aux frais du roi. Allez, on retourne à Paris, dans la manifestation contre le patron de la DGST marocaine, Abdelatif Amouchi, devant l'ambassade du Maroc en France.
On lâche rien.
J'ai appris que la manif avait failli être
interdite. Oui, ils ont voulu
la déplacer.
La carrière d'Omli.
Enchanté.
Journaliste de France Inter, elle était avec nous.
Ah oui, avec. D'accord, mais toi, c'est malheureux. Là, j'ai appris une nouvelle. Là, apparemment, les flics ils sont venus lui demander, comme quoi, parce que je leur ai dit qu'on va faire la cérémonie de décoration. On va décorer la Hamouchi. Je lui ai dit voilà, parce que c'est pas possible quand même de décorer un tortionnaire. Moi, ce tortionnaire, je l'ai vu dans la salle de torture et j'ai pu l'identifier. J'étais torturé sous ses ordres. Il était là, il était présent dans la salle de torture.
Alors là, on est avec Zakaria Moumni.
Oui, je suis champion du monde de boxe thaï. J'ai représenté le Maroc dans pas mal de championnats. Et ben, moi, j'avais manifesté le 25 janvier 2010 devant la résidence du roi Mohamed VI à Bé. Et j'étais menacé de mort par le secrétaire particulier du roi Mohamed VI, Mounir Majidi. Il est venu me voir, il m'a dit « t'as de la chance d'être en France, si t'étais au Maroc, on t'aurait déjà fait la peau ». Moi, j'ai pas pris ces menaces très au sérieux parce que je pensais que les années des plans, c'était fini. Et je me suis rendu au Maroc le 27 septembre 2010 pour demander l'autorisation à la fédération de boxe thaï pour participer, pour représenter le Maroc au championnat du monde qui allait se dérouler le 16 octobre 2010 à Édimbourg. Et à ce moment-là, j'étais enlevé à l'aéroport par 4 agents de la DGST marocaine, séquestrés et torturés. L'enlèvement, ça s'est passé, il y avait une voiture sur le tarmac, à côté de l'avion. Ils m'ont mis dans la voiture, les 4 agents de la DGST. Une fois dans la voiture, on m'a bandé les yeux et on m'a allongé sur les genoux d'un des deux et on m'a recouvert d'une veste. On a roulé à peu près 3 quarts d'heure. Après, je me suis retrouvé dans le centre de torture Témara. Et d'ailleurs, dans ce centre de torture, j'ai été torturé durant 4 jours. J'étais privé de sommeil, privé de nourriture, privé d'eau, électrocuté, suspendu la tête en bas, tabassé avec des barres en fer, avec des câbles. On m'a versé de l'eau sur moi. Et on m'a menacé sans arrêt, sans cesse. Ils me disent que ici, c'est l'abattoir de Sa Majesté, qu'on va découper, qu'on va faire de toi de la viande hachée, que tu sortiras dans des boîtes de conserve. Et ça, tu vas beau remuer ciel et terre, et tu ne sortiras pas d'ici vivant. Ça t'apprendra d'aller manifester devant chez le roi ou citer le secrétaire particulier du roi Mounir Majidi dans les médias. Et dans la salle de torture, j'avais vu et j'ai pu voir et identifier le tortionnaire, le directeur de la DGST marocaine, Abdelatif Hamouchi.
Celui-là même qui va être décoré par le ministre de l'Intérieur.
Celui-là, oui, d'ailleurs, j'étais choqué que la France, le berceau des droits de l'homme, ait une décision comme ça de prendre la décision de décorer un tortionnaire qui est poursuivi par... Il y a 3 plaintes ici en France. La France, elle va perdre son âme, quoi. C'est vraiment, elle va perdre son âme.
Et Dakaria, pour quelle raison est-ce que vous avez été arrêté, incarcéré, torturé ?
Moi, je suis champion du monde de boxe thaï, je représentais le Maroc. Et dans la loi marocaine, il y a un décret royal qui donne le droit à chaque sportif titré champion du monde d'avoir un poste de conseiller sportif. Moi, j'ai demandé un droit légitime. Tout simplement l'application du droit. Au Maroc, il ne faut pas demander, il ne faut pas dire qu'on a des droits, parce qu'au Maroc, il n'y a pas de citoyens, c'est des sujets au Maroc. Il faut lécher les babouches, il faut s'agenouiller, il faut dire s'il vous plaît, monseigneur, machin. Moi, j'ai demandé, en tant que citoyen, j'ai demandé l'application d'un droit. Et ça ne s'appelait pas dans l'entourage royal et dans le palais, ça ne s'appelait pas. J'étais en prison après. 4 jours de torture. Non, parce qu'on se connaît.
On se connaît.
D'accord, parce qu'on se connaît pas. Mais... C'est bizarre. Non, mais depuis tout à l'heure, on était là. Depuis tout à l'heure, on était là. Vous étiez derrière. Là, on est là. Vous étiez derrière. Oui, mais vous étiez derrière nous là-bas.
Ne me touche pas mon téléphone. Ne me touche pas.
Ne me touche pas le téléphone. Ouais.
Ah,
excusez-moi, s'il vous plaît. Le monsieur, il m'agresse. Il me touche et tout. Alors,
pourquoi tu me fais une photo ?
Non.
cette personne depuis tout à l'heure. Elle est derrière moi instantanément. Il était derrière moi. Là, on est arrivé là, il est derrière nous.
On l'a déjà vu, ce monsieur.
Voilà, j'ai parlé avec lui
et
tout ça.
C'est les policiers qui travaillent dans la rue.
Ok.
Qui travaille à l'ambassade.
Oui.
Voilà. Et quand on lui a dit, il a dit non.
Oui, monsieur Lux, fille.
Mais pourquoi? Alors, mais il ne faut pas rester derrière nous quand même, je pas à vous de faire votre loi.
Je suis à côté de mon voiture, monsieur.
Non, mais il prend des informations, il était en train d'écouter ce qu'on dit.
Pas dit.
Nous, on est des opposants. Lui et sa femme, ils travaillent à l'ambassade.
Ça va, Zakaria? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, ça va. Bah, moi, j'ai pris la photo du monsieur. Je vais aller porter plainte parce que je comprends pas.
Il y a un monsieur qui était là depuis un moment et qui nous...
Bah, il me poursuit depuis tout le temps. Dès que je me retourne, bah, là, j'étais là. Il était derrière moi. Là, j'ai bougé. Il est derrière moi. Là, encore, on est à 500 mètres. Il est derrière moi encore. Je ne comprends pas. Il attend sa femme. Bah, il dit qu'il attend sa femme. Et après, les flics, ils viennent. Ils disent qu'il travaille à l'ambassade.
C'est un agent de
renseignement. Bah oui, bien sûr, c'est un agent. Mais je comprends pas. Il est constamment derrière moi, quoi. Je ne comprends
pas. Vous en avez parlé avec les policiers français, mais ils vous disent...
Ils me disent qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de circuler. Il est libre de me coller, hein, je ne comprends pas.
Et oui, comme les policiers tunisiens du temps de Ben Ali, les agents de renseignement marocains surveillent bel et bien les opposants en France, tandis que la police française semble laisser faire. Dans une tribune publiée par Le Monde ce mardi 3 mars, maître Patrick Baudouin, avocat de Zakaria Moumi et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, écrivait « La France est-elle dans les actes aussi vertueuse que dans les discours lorsqu'il s'agit de lutte contre la torture ?» De poursuite de crimes contre l'humanité, de défense de la liberté d'expression, la réponse est hélas négative à l'aune des récentes péripéties des relations franco-marocaines.
Rétablir la coopération judiciaire franco-marocaine. Eh oui, c'est ça la priorité pour la France. Alors la question du Sahara occidental, un conflit qui dure depuis bientôt 40 ans, il n'y a pas le feu, il n'y a jamais eu le feu d'ailleurs. La France a toujours penché du côté du royaume, tant pis pour la décolonisation et pour les militants sahraouis. Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc à partir de 1975 avec le consentement du vieux dictateur Franco alors sur son lit de mort. Le peuple sahraoui, comme s'appellent ses habitants, revendique depuis son droit à l'autodétermination et ce par l'intermédiaire du Front Polisario qui, après quelques années de lutte armée, a signé un cessez-le-feu avec le Maroc en 1991 et attend que soit organisé un référendum d'autodétermination promis par l'ONU. La MINURSO, mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, est créée dans la foulée par la résolution 690 du Conseil de sécurité et se doit de surveiller les forces en présence et veiller à la préparation du référendum, mais sans mandat de surveillance des droits de l'homme. Nahma Asfari, lui, est sahraoui, défenseur des droits de l'homme et militant pour l'autodétermination du Sahara occidental. Le 16 février 2013, après plus de 27 mois de détention préventive, il a été condamné à 30 ans d'emprisonnement par le tribunal militaire de Rabat sur la base d'aveux signés sur la torture, selon lui. Le 20 février 2014, deux plaintes contre le Maroc sont déposées par l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et l'avocat Joseph Bréham, pour que lumière soit faite sur cette affaire. Nous allons rencontrer Claude Mangin, la compagne de Naha Asfari, qui se démène pour que justice soit faite et que les droits de l'homme soient respectés aussi pour les Sahraouis.
Au Maroc, c'est une méthode généralisée, la torture. C'est un pays où la torture fait partie des modes d'interrogatoire systématiques, que ce soit les Sahraouis ou les Marocains. Et toute plainte pour torture est actuellement condamnée comme des allégations de mauvaise foi contre l'État marocain. Donc actuellement, quelqu'un torturé au Maroc ne peut pas porter plainte. Et s'il porte plainte, il est condamné à son tour. Dans le cas de mon mari, il y a 15, quand on regarde l'ordonnance de la plainte, il y a 15 agents de la DST, dont les noms sont cités comme personnes ayant fait des actes de torture. Mais de la DST, c'est les méthodes de la DST, dirigées par M. Amouchi. Il raconte que quand il est arrivé, ils ont été transférés avec 6 personnes tout à fait au début, au bout de 6 jours, au tribunal militaire de Rabat. Et quand il est arrivé devant le juge d'instruction militaire, ils étaient en sang. Il a dit « Vous avez vu dans quel état on est ?» Et le juge a seulement dit « Mais je ne suis pas médecin ». Une fois, j'ai eu l'occasion d'interviewer un militant qui avait été aussi torturé, mais pas dans la même affaire. Mustapha Abebdain, un écrivain, un professeur de philosophie, Sahraoui. Quand j'ai raconté ça à mon mari dans sa prison, il s'est effondré en larmes en disant « j'ai subi la même chose ». Alors qu'on avait, comme il ne l'avait jamais raconté, on avait l'impression que lui avait été épargné.
Pendant des siècles, les Sahraouis étaient des tribus nomades, vivant dans les déserts du Sahara. En 1885, lors de la conférence de Berlin, les Européens se sont partagés les continents africains. Les nomades, qui étaient libres et organisés en familles tribales, furent soudain confinés à l'intérieur des limites artificielles et soumis à une autorité coloniale. L'Espagne, comme toutes les puissances coloniales, a commencé à exploiter les ressources naturelles de la terre sahraoui. Pendant des décennies, les Sahraouis ont coexisté avec les colons espagnols. Mais dans les années 70, un fort mouvement nationaliste s'est développé à travers l'Afrique. Les Sahraouis ont senti de plus en plus que le Sahara occidental était leur terre, leur nation. Mais le roi du Maroc, Hassan II, proclama que cette terre était et avait toujours été partie intégrante du Maroc.
Claude Mangin Asfari, hein, même, puisque vous êtes marié avec Nama Asfari.
Depuis 2003.
Donc Nama Asfari, c'est un militant de la cause sahraoui, hein, donc qui demande l'autodétermination, un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental.
C'est-à-dire l'application du droit international, puisque le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 parmi les peuples à décoloniser de l'ONU. Donc ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question dont on ne parle pas. Et quand on n'en parle pas comme une question de décolonisation. Or c'est bien le dernier pays d'Afrique non décolonisé. Et si on ne dit pas que c'est une question de décolonisation, on ne rend pas hommage à la lutte de ce peuple qui veut son indépendance depuis toujours. C'est un peuple qui a été colonisé et qui a droit à avoir son pays. C'est quand même le premier des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chacun a droit à avoir son pays, son État.
Et donc en octobre 2010, il y a une action hein, qui est menée par justement les militants sahraouis, le camp de Gdeim Izik.
Voilà, c'est un lieu dit à 15 km de Laayoun, la capitale du Sahara occidental. Ce camp est né de manière spontanée, contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire que peu à peu, les gens ont pris leur tente et se sont installés dans le désert. Et les autres villes ont voulu le faire aussi, mais en ont été empêchées. Mais à Gdeim Izik, en fait, les autorités coloniales marocaines d'occupation n'ont pas vu venir la chose. Et petit à petit, les gens ont installé leur tente. Et au bout de quelques semaines, on était à 20 000 personnes, 8 000 tentes. Ils ont recréé, en fait, ce qui était dans leur tradition, c'est-à-dire la vie dans le désert, puisque c'était un peuple de nomades. Et c'est devenu un défi pour la monarchie marocaine, puisque depuis toutes ces années, ils s'étaient efforcés de dire que le peuple sahraoui n'existait pas, que les sahraouis étaient des Marocains. Donc, ils se sont retrouvés à 20 000 et mon mari a été un peu leur porte-parole, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de journalistes, même des hommes politiques qui sont venus leur rendre visite. Noam Chomsky dit que c'est là qu'est né le printemps arabe, avec le peuple sahraoui. Et c'est vrai que cette prise de conscience qu'un peuple existait a été très traumatisante pour le peuple marocain, qui ne s'y attendait pas du tout, puisque la monarchie marocaine s'arc-boute sur la récupération des provinces du Sud comme quelque chose de vital pour sa monarchie, pour son trône. Et du coup, on ne doit pas parler de cette question du Sahara. Le Sahara est marocain. C'est comme si on disait que c'était une terre sans peuple. Hein. Ce serait bien pratique pour le Maroc que cette terre soit sans peuple. Ça fait maintenant 24 ans que ce peuple attend pacifiquement que la communauté internationale fasse son devoir d'obliger le Maroc à organiser ce référendum. Et donc, en octobre dernier, ils en ont fait la démonstration avec le camp de Gdeim Izik, hein, à tel point que les hautes autorités marocaines se sont déplacées pour faire un comité de négociation. Le ministre de l'Intérieur lui-même est venu deux fois.
Lundi 8 novembre, les discussions sont dans l'impasse.
France 24.
6 heures du matin,
Des hélicoptères marocains survolent le camp de Gdamizik, près de Laayoune.
12 novembre 2010.
Les forces de sécurité donnent l'ordre à la population d'évacuer. Quelques minutes plus tard, les canons à eau entrent en action, mais l'intervention dégénère. Ces violences se sont propagées comme une traînée de poudre en dehors du camp. Rapidement, des émeutes éclatent dans la ville de Laayoune, à une vingtaine de kilomètres. Les manifestants scandent des slogans de solidarité envers les réfugiés.
Le campement dure quelques semaines. Et votre mari est arrêté la veille du démantèlement du camp.
Oui, il était venu sur Laayoune, puisqu'il n'y avait aucun moyen de communiquer depuis le camp de Gdemizik. Hein, tout avait été brouillé, l'armée encerclait, ils avaient fait un véritable siège qui empêchait les gens d'entrer et sortir. Et donc mon mari était venu à Laayoune parce qu'il attendait la visite du député français Jean-Paul Lecoq, qui devait arriver dans la nuit du 7 au 8. Et donc, moi, j'ai reçu un coup de fil de lui à 8 heures du soir. Il m'a dit, de toute façon, la maison où je suis est encerclée et je vais être arrêtée. Son ami, qui était propriétaire de la maison, a témoigné à son procès de la façon dont ça s'est produit. Cette arrestation, donc, musclée avec des dizaines de voitures de toutes les forces possibles et imaginables. Et nous n'avons plus de nouvelles pendant 6 jours. Mon beau-père a disparu 16 ans dans les prisons de Hassan II. Et moi, je n'ai subi que 6 jours de disparition, mais c'est déjà assez long. Parce que vu ce qui s'est passé le lendemain, on pouvait s'attendre à tout. C'est-à-dire y compris à la mort. Le jour du démantèlement. Enfin, c'était la terreur. Sachant que dans ce camp, il y avait surtout des femmes et des enfants et des vieillards. Cette manière d'agir contre un rassemblement pacifique était complètement indigne, d'autant plus qu'il y avait eu des négociations pour aboutir à des accords. Et aujourd'hui, 4 ans après, aucun Sahraoui n'a le droit d'installer une tente nulle part dans le territoire, c'est-à-dire eux qui avaient l'habitude pendant l'été d'installer des tentes au bord de la mer pour leurs vacances, n'ont plus le droit. Et même dans la ville, quand on met une tente sur la terrasse, on risque gros. Parce que la tente, la Haïma, c'est le symbole de la civilisation sahraoui. C'est leur manière de montrer qui ils sont, c'est-à-dire un peuple nomade dont c'est le symbole de vie, la Haïma.
Et donc depuis 4 ans, Naama est emprisonnée et il y a eu un procès il y a 2 ans, donc c'est ça.
Voilà. Et le verdict est tombé au bout d'une dizaine de jours, donc des peines allant de 20 ans à perpétuité, mon mari en ayant écopé d'une de 30 ans, puisqu'ils sont inculpés pour la mort de 11 agents des forces de sécurité marocaines. C'est un procès où il n'y a eu aucune enquête, tous les aveux ont été obtenus sous la torture, aucune preuve, ce qui montre bien que c'était effectivement un procès politique. Et l'argument selon lequel il fallait bien que justice soit rendue, oui, mais condamner des innocents, ça n'a jamais été rendre la justice.
Et comme chaque année au mois d'avril, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera sur la prolongation pour un an de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Et il est question de son élargissement à la protection des droits humains. Le Maroc s'y opposera et la France, sauf plomber leurs relations diplomatiques et remettre à mal la coopération judiciaire franco-marocaine fraîchement rétablie, s'y opposera aussi, encore une fois.
À suivre, samedi prochain, comme un bruit qui court à 16h.